Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est Podcasty, le jour de la métamorphose, le jour où Popopop cesse de labourer le champ infini de la pop culture pour se pencher sur l'univers sans limite, lui aussi du podcast, comme les fées se penchaient autrefois sur le berceau du nouveau-né. Et d'un coup de baguette magique, nous mettons en lumière les podcasts qui nous semblent les plus remarquables ou méritants de l'être remarqués. Aujourd'hui, nous souhaitons donc la bienvenue à Judith Duportail et à son podcast ironiquement baptisé On peut plus rien dire, mais qui démontre justement le contraire, à savoir que l'on peut en dire beaucoup, à commencer par le fait de pouvoir toujours dire qu'on ne peut plus rien dire, ce qui, dois-je le rappeler, n'est pas forcément le cas dans tous les pays du monde. Autant dire qu'on ne va pas se priver d'en parler dans cette 34e édition de Popo Podcast. Et Popo Podcast, et ben c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Bonjour Judith Duportail.
Bonjour.
Bienvenue dans Popo Podcast. Il paraît que Popo Podcast, c'est difficile à prononcer.
Popo Podcast.
C'est un intro.
Ah,
oui, un intro. Vous avez été lancé comme ça. Encore une fois.
Popo Podcast.
Bien. Bah oui, c'est pas si difficile que
non,
ça.
Non, c'est oui. Ça, avec un peu de volonté, on
voilà,
y arrive.
Voilà, encore une rumeur malveillante. Alors Judith, vous vous définissez vous-même comme une autrice, intervieweuse, wokiste vénère et animatrice du podcast. On peut plus rien dire, mais vous êtes surtout journaliste, n'est-ce pas? The Guardian, Slate, Le Philosophie Magazine, Le Temps, Les Inrocks.
Oui.
Dois-je en rajouter?
Bah oui, j'ai commencé, j'étais pigiste, donc j'ai travaillé pour plein de journaux différents, tout à fait.
Et des journaux de bonne facture.
Tout à fait.
Bien. Alors c'est ce podcast, On ne peut plus rien dire, produit par Binge Audio, qui vous amène aujourd'hui. Et nous allons longuement en parler avec Charline, qui va nous rejoindre dans un petit instant. Mais avant ça, j'ai quelques questions pour l'autrice, l'intervieweuse, et peut-être aussi pour la wokiste vénère. En mars 2019, vous avez fait trembler Tinder en publiant le livre L'amour sous algorithme aux éditions La Goutte d'Or, qu'on aime beaucoup par ici, les éditions de La Goutte d'Or. Vous avez en effet exposé l'algorithme du fameux site de rencontre et mis au jour un scandaleux système de notation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne, s'il vous plaît?
Alors, j'ai enquêté sur l'algorithme de Tinder quand j'ai découvert un jour qu'on avait tous une note secrète de désirabilité sur l'application. En gros, l'appli voulait classer les beaux avec les beaux, les moches avec les moches et les moyens avec les moyens pour créer des paires. Et ça, c'était le PDG de l'époque qui s'en était vanté dans une sombre newsletter de la Silicon Valley. Et donc moi, en tant que journaliste, quand j'avais découvert l'existence de ce classement, j'avais voulu en savoir plus. Et donc j'ai demandé toutes mes données personnelles auprès de l'application, j'ai travaillé avec des hackers, j'ai travaillé avec des avocats, j'ai travaillé avec des universitaires, enfin bref, j'ai fait mon taf de journaliste. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'on n'était pas uniquement évalué sur notre attractivité physique, ce qui déjà, moi, me mettait suffisamment en colère, mais qu'on était aussi évalué sur notre niveau de diplôme, notre niveau de revenu, notre niveau d'intelligence. Et que pire que ça, les hommes et les femmes n'étaient pas évalués de la même manière. Ça veut dire que quand on était un homme à l'époque sur Tinder, qu'on avait fait des bonnes études et qu'on avait des bons revenus, on avait des points bonus. Et quand on était une femme et qu'on avait fait des bonnes études et qu'on avait des bons revenus, on avait des points malus. Parce que le but, c'était de créer des matchs, donc des paires où l'homme était toujours supérieur à la femme. Donc tout ça, je l'ai raconté dans mon livre « L'amour sous algorithme ». Et suite à ça, Tinder avait annoncé avoir abandonné le Hello Score, donc ce score de classement.
Judith Duportail, suis-je trop vieux ou peut-être trop candide pour m'imaginer que jamais aucun algorithme ne pourra comprendre ou prescrire les infinites subtilités du jeu amoureux ?
Peut-être trop... Non, vous avez raison, trop poète peut-être.
Trop poète.
Mais il faut être trop poète.
Ça marche pas avec les algorithmes ça.
Non, c'est exactement.
Bon. Nous allons y revenir et bien évidemment parler de votre podcast. On peut plus rien dire dans un instant avec Charline. Et puisque vous osez, Judith, ben moi je vous propose d'écouter Joséphine qui ose elle aussi. Enfin c'est ce que raconte Bachoun ça.
Berlin, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. Dauphine, je suis le roi de Sénéran, à qui sourit la vie. Marche sur l'eau. limite et les péages. Jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, ose Joséphine. Osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez mes souliers, usez mes huriers, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, ose Joséphine. Osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Joséphine, osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Alain Bashung, faut-il le rappeler, Osez Joséphine, l'inusable et intemporel Bashung. Voilà, et en compagnie aujourd'hui de Judith Duportail, notre invitée pour ce numéro de Pop-up Podcast. Et Charline Roux nous a rejoint, elle aussi intervieweuse et vénère.
Plus vénère
Charline,
qu'intervieweuse.
Pouvez-vous nous présenter, on peut plus rien dire, le podcast de Judith au titre, je crois, teinté d'une certaine ironie.
Absolument, vous reprendrez bien un peu de débat. Et alors, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis des R guillemets, puisque la notion a été quelque peu dévoyée par les éruptations de plateau télé, hein, répondant à des questions que personne ne se pose. Ici, l'on cause sereinement et on répond à des questions de société. Le Kremlin a-t-il infiltré votre cerveau? Attendons-nous trop de la justice? Que changerait vraiment une assemblée de gauche? Ça, c'est pour le format habituel, mais on peut aussi entendre des grands entretiens. Lolita Pil, Camille Kouchner, Alice Coffin et Nora Malagré. Le programme s'appelle donc « On peut plus rien dire ». Est-ce que vous m'autorisez à le sous-titrer? Enfin, si, on peut dire, mais s'agirait plutôt d'écouter.
Ah ouais, c'est un très bon sous-titre. Excellent.
Non, parce qu'en réalité, on peut dire. Mais
bien
le problème...
Sûr.
Est-ce qu'on entend cette parole ?
Oui, bien sûr. Et nous, l'idée de reprendre ce titre « On peut plus rien dire », c'était évidemment de faire un pied de nez à la sphère réactionnaire qui a le sentiment de plus pouvoir s'exprimer et d'expliquer que non, nous, on a le sentiment au contraire qu'il y a énormément de paroles qui se libèrent et des paroles qui n'avaient pas accès à la légitimité auparavant. Et donc, c'est ces paroles-là, justement, nous, qu'on voulait inviter, mettre en lumière... Donner la possibilité, voilà, d'accéder à cette légitimité.
On peut plus rien dire. Ça ressemble à ça.
Je m'appelle Judith Duportail. Je sais pas vous, mais moi, quand j'allume la télé, comme par exemple quand je vais chez mon grand-père, je suis atterrée.
Mais en soi, ça va pas.
Et il y a une phrase que je n'en peux plus d'entendre, que ce soit dans la bouche de mon grand-père, même si à lui, je lui pardonne, ou que ce soit à la télé, à la radio ou encore au comptoir des bars, c'est
« On peut plus rien dire ».
Vraiment ? Est-ce qu'on peut plus rien dire ou est-ce que c'est le vieux monde qui se languit du temps où il avait le monopole de la parole officielle ?
Ah ça, c'est absolument terrible !
Moi, je crois au contraire que les paroles se libèrent. Des paroles radicales, révolutionnaires, déstabilisantes. C'est à celles et ceux qui portent ces paroles que nous donnons rendez-vous chaque vendredi à notre micro pour débattre et construire le monde que nous voulons habiter.
On peut plus rien dire.
On va le dire quand même.
Voilà, la bande-annonce d'On peut plus rien dire, le podcast de Judith Duportail. Judith, votre grand-père semble une source d'inspiration, ou du moins de réaction importante pour vous. Il écoute votre podcast ?
Oui, oui, mon grand-père est un peu atterré par mes opinions, mais on s'entend quand même, on s'entend bien. Un des articles que j'avais fait il y a très longtemps pour Vice, vous pouvez, Vice, le média un peu branchouille, enfin c'est toujours branchouille d'ailleurs, j'avais fait un article qui s'appelait « J'ai dit oui à tous les mecs qui m'ont dragué dans la rue ». Donc pendant 2 semaines, j'avais fait une expérience sociale où dès qu'un mec me draguait dans la rue, je m'arrêtais. Et il m'avait appelé, il m'avait dit « Mais je comprends pas ton truc, moi c'est comme ça que j'ai rencontré ta grand-mère ». Donc il continue à être horrifié.
Mais vous avez réussi à le convaincre parfois ?
Parfois, oui. En fait, j'essaye plus vraiment, pour être honnête. Je le laisse, mais c'est intéressant d'être, enfin, d'avoir de la contradiction au sein de sa propre famille, de pas se couper aussi de ceux qui pensent autrement. Je pense que c'est essentiel, surtout quand il y a de l'humour et de l'ironie comme ça. C'est important.
On peut plus rien dire. Dans certains domaines, c'est plutôt une bonne nouvelle. Certains propos ne sont aujourd'hui plus tolérables. Ceci dit, la phrase pose une question. On peut plus rien dire. Qui est ce on qui a l'impression que la parole lui a été supprimée?
Bah, je pense que c'est sûr que pour une certaine catégorie de personnes, que nous, les gauchistes, on a envie d'appeler les personnes, on va dire, les puissants, ou ceux qui étaient, qui avaient le monopole de la parole officielle, les vieux mâles blancs, enfin, je mets des guillemets. Pour certaines catégories de personnes, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il y a, par exemple, moins de blagues qu'on peut faire. Il faut faire attention à plus à la réception de ces paroles. Alors qu'avant, si on tenait des propos qui étaient offensants ou blessants, on blâmait le récepteur. Et on se remettait pas en question. Et donc c'est vrai que pour une certaine catégorie de personnes, on peut moins dire. Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'on peut dire moins de choses à certains niveaux.
Judith, est-ce que vous êtes une gauchiste et est-ce que je suis un vieux mâle blanc?
Bah oui, oui.
Vous croyez que c'est aussi simple que ça?
Non, bien sûr que non, je le dis avec humour. Non.
Elle a mis des guillemets.
Oui, j'ai mis des guillemets.
Vous êtes entouré de guillemets,
Antoine. Il y a aussi une rupture entre les générations, une incompréhension entre ceux qui pensent qu'on ne peut plus rien dire et ceux qui ont envie que justement on puisse le dire, formuler les choses autrement.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une grande volonté aussi juste de pouvoir participer aux conversations, d'être invité. Justement, bah, moi j'ai cette chance aujourd'hui là d'être invité dans ce studio, mais c'est un privilège incroyable. Et de pouvoir exprimer son avis, comme moi je peux le faire d'ailleurs dans mon podcast ou comme j'essaie de l'offrir à certaines personnes, c'est un privilège incroyable. Et je pense qu'il y a un désir très très fort de la part de la jeune génération ou de la part des femmes ou de la part de personnes, des personnes racisées, de faire partie du débat. C'est pas on peut plus rien dire, c'est aussi on a envie de dire. Ouais. Nous aussi, je pense que ce serait peut-être ça le sous-titre.
Alors, On peut plus rien dire n'est pas votre premier podcast. Je rappelle qu'il y a Miss Paddle à tout jamais dans mon panthéon perso. Comment il est né, celui-là?
C'était de conversation avec Binge Audio où on se disait ça va être terrible cette année présidentielle. Ça va être un enfer. On va être tiré vers le bas par les chaînes d'infos ou... Même on avait envie, en fait, d'essayer d'offrir un petit trou de souris dans le débat public où on pourrait parler des sujets qui nous intéressent, parler écoféminisme, parler politique, mais dans le sens noble du terme, parler féminisme, comme je disais, mais parler aussi, travail du sexe, amour, enfin, toutes les questions aussi qui nous intéressent, pas juste parler chasse, cantine bio et burkini, quoi. Enfin, juste s'offrir cet espace. Ouais. On avait envie d'essayer d'offrir cet espace.
C'est un podcast qui est fondé sur la conviction, la vôtre, hein, je vous cite, qu'il est possible de débattre autrement, sans clash, sans caricature, sans pensée toute faite. Ça signifie qu'il n'y a de vrai débat que si tous ceux qui parlent sont prêts à changer d'avis?
C'est une question intéressante. moi, je fais signer à mes invités. Enfin, je ne fais pas signer, mais je transmets à tous mes invités avant qu'ils viennent les règles du jeu. Donc, où je leur demande de faire attention à pas couper la parole aux autres invités, à faire attention si c'est un homme à pas couper la parole d'une femme, encore plus, ou si c'est une personne blanche à pas couper la parole d'une personne racisée. Enfin bref, à être vigilant en fait dans la façon dont il occupe l'espace ou il occupe le terrain, la parole. Ça ne veut pas forcément dire qu'à la fin tout le monde va être d'accord ou que tout le monde va être convaincu, mais c'est au moins un certain niveau de respect. Ouais. En fait, je pense que c'est ça l'essentiel.
Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être convaincu par un de vos interlocuteurs?
Ah oui, souvent, ils me font changer d'avis ou souvent ils me disent que ma vision elle est trop court-termiste ou caricaturale ou non, je m'en prends un peu plein la j'en prends. non, je me fais je prends des petits coups de griffe quoi, mais c'est bien.
C'est-à-dire on peut arriver vieux mâle blanc et ressortir gauchiste?
Bah oui, bah venez.
Le vieux mâle blanc peut être gauchiste hein.
Oui, c'est ça.
On peut plus rien dire, c'est le podcast de Judith Duportail retrouvé sur toutes les plateformes et c'est signé Judith Duportail, évidemment, puisque c'est notre invitée du jour.
Le titre du podcast est en soi une gentille provocation, on peut plus rien dire, mais les titres des épisodes le sont aussi. Le tout premier, par exemple, c'était « Êtes-vous woke ou êtes-vous juste pénible ?» Qu'est-ce que ça dit de la tonalité, de l'angle de la conversation?
En fait, on essaye d'avoir une vision un peu espiègle sur l'actualité et la société dans ce podcast, et on veut aussi se moquer de nous-mêmes. Et c'est pour ça que notre premier épisode, c'était « Êtes-vous woke ou êtes-vous juste pénible ?» Parce que c'est souvent... Enfin, je pense que c'est une question que les personnes engagé arrive à se poser parfois quand on a des convictions ou quand on veut défendre un message, on a souvent envie de convaincre ses proches très fort, ou parfois on peut avoir des conversations où le ton monte, etc. Et on peut souvent s'entendre dire qu'est-ce que t'es relou avec ton féminisme, ton véganisme ou je sais pas quoi, et parfois se poser la question suis-je convaincue, est-ce que j'essaie de convaincre ou est-ce qu'en vrai je suis un enfer pour toutes les personnes autour de moi. et c'était amusant en tout cas de se poser cette question, et la réponse c'est qu'on ne convainc personne en étant gentil. Je pense qu'on fait rien changer sans être un peu pénible.
Ah, donc il faut un peu de sang, un peu de nerfs.
Ah oui, quand même, il faut que ça bouscule du sang, je sais pas, mais non, du nerf, mais, oui du nerf.
C'est-à-dire
oui.
Vous ne croyez pas à la maïeutique à l'ancienne où vraiment chacun arrive à persuader l'autre et à retourner son point de vue par la force des arguments. Il faut du ton, il faut de l'humeur.
Oui, si, mais je pense que faire changer quelqu'un d'avis, même si le ton est très cordial et même s'il y a beaucoup de respect, ça demande quand même un tempérament, voilà, c'est ça.
Vous parlez du vieux monde qui se languit du temps où il avait la parole officielle, je vous cite, hein. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui toutes les paroles se valent et qu'il n'y a plus d'autorité? Par exemple, qu'il n'y a plus d'experts?
Ah, c'est une question hyper intéressante en ce moment, je trouve, de qui a la légitimité de parler, ce dont on parlait. Et non, je crois pas que toutes les paroles se valent. Et moi, je crois encore aux distinctions, peut-être un peu à l'ancienne, où quand on a écrit un livre sur un sujet, on en sait plus qu'un anonyme sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Non, je crois pas. Par contre,
Y compris en ces temps où on voit défiler des experts partout, où récemment tout le monde était épidémiologiste ou spécialiste des questions ukrainiennes.
Oui, mais ça, c'est sur les vieux médias que je regarde même plus, moi. Mais oui, c'est sûr que c'est ce qu'on a vu pendant le Covid et on était assez atterrés de voir qu'il suffisait de, je sais pas, mettre une blouse pour pouvoir donner son avis sur ce qui se passait pendant la pandémie aussi, bien sûr. Mais est-ce que toutes les paroles se valent? Non, moi, je pense pas, sincèrement.
Alors justement, dans On peut plus rien dire, pas d'experts avec leur ronde serviette dans les émissions de débat, celles que vous ne regardez pas de fait. Dans l'épisode Que changerait une assemblée de gauche, vous confrontez Manon Aubry, qui est députée de la France insoumise, à Mathieu Fila, qui est lui chercheur. Dans celui intitulé La parole libère-t-elle vraiment, vous interrogez Marine Turchi, qui est journaliste à Mediapart, et entre autres Cécile Delarue, qui est chargée de la com au sein du collectif MeToo. Par exemple, sur Le self-care est-il l'arnaque du siècle, on entend un psy, un docteur en psychopathologie et Bérangère Krief. Comment est-ce que vous établissez votre casting?
Bien, on essaye panacher entre justement de l'expertise. Donc, on va dire, moi, j'ai aucun problème à inviter des chercheurs, des doctorants, au contraire, des gens qui savent de quoi ils parlent. Des voix, peut-être, la Bérangère Krief, c'est parce que dans son spectacle, elle avait parlé du self-care, des voix de la culture, des artistes. Des personnes qui vivent ce dont elles parlent, on va dire, du témoignage. Puis aussi, j'aime bien, moi, avoir, des poètes ou des voix un peu différentes. Là, celui qui va sortir, celui qui sort aujourd'hui, ce vendredi, c'est Instagram a-t-il tué le passé, où on fait débattre deux photographes ensemble de l'impact de notre surexposition aux images. Et moi, c'est une conversation que j'avais jamais entendue auparavant. Je vous conseille d'aller écouter.
On peut plus rien dire. C'est à retrouver chaque vendredi, comme Pop-up Podcast. Ah, mais quel hasard. Sur toutes les plateformes, c'est signé Judith du portail que nous recevons aujourd'hui. Judith, le générique de votre podcast est très sympa. Voilà, très sympa, disais-je, mais écoutez plutôt celui de Charline Roux pour sa chronique.
Le podcast.
Ah, on n'est pas dans la même cour, là. Hein.
C'est du fait maison.
Allez-y, Charlie.
Au nom de nos ancêtres, c'est le titre d'une série en 6 épisodes, née dans le prolongement d'un documentaire du même nom. Et le mieux pour en comprendre les enjeux, c'est d'écouter le début du tout premier épisode.
Je m'appelle Aurélie Bambuc et je suis descendante d'esclaves.
Je m'appelle Axelle Balguery, je suis la descendante d'un négociant colonial bordelais.
Ensemble, nous allons découvrir l'histoire de nos ancêtres.
Ils ont été les témoins d'un passé qui résonne encore aujourd'hui.
Au nom de nos ancêtres. Épisode 1. La rencontre entre deux descendantes. Je suis descendante d'esclaves, mais je ne l'ai pas toujours su. Lorsque j'étais petite, je savais que mes ancêtres ne pouvaient pas être gaulois. Mes parents me parlaient des Indiens Caraïbes, les premiers habitants des Antilles, mais jamais de l'Afrique. D'ailleurs, eux non plus, leurs parents ne leur parlaient pas de leurs origines. Ma mère ignorait tout.
Tu sais, dans les familles, les adultes ne parlent pas aux enfants. Et puis, de toute façon, il n'était même pas question que tu poses des questions sur quoi que ce soit, parce que quand tu es petit, tu n'es au courant de rien. Hein.
Et pour mon père, les origines esclaves étaient un tabou.
Le fait d'être descendant d'esclaves était considéré comme une honte. Alors que nous n'avons rien fait, hein. Mais c'était considéré comme une honte, donc on n'en parlait pas.
Pendant plusieurs mois, Aurélie Bambuc et Axelle Balguery ont partagé leurs découvertes généalogiques sur leurs ancêtres, esclaves et négociants entre Bordeaux et les Antilles, et c'est absolument passionnant. passionnant. Vous pouvez retrouver la série sur Deezer, sur Spotify et sur la plateforme Outre-mer de France Télévisions.
Et on poursuit avec un podcast qui met les salles obscures à l'honneur.
Forcément, puisque c'est le podcast des cinémas Pathé Gaumont. Séance tenante, c'est le titre. C'est un podcast animé par Alexis Audren avec Gaël Golen, Lisa Muratore et Robin Nègre qui décortique les sorties de la semaine et propose aussi des focus sur Tom Cruise, la semaine de la sortie de Maverick, ou dans l'épisode que voici, un entretien avec Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, auteur du prénom et scénariste des Trois Mousquetaires d'Artagnan puis Milady, sortis respectivement prévus en avril et en décembre 2023, le tout par Martin Bourboulon. Les scénaristes racontent ici la genèse et leur excitation.
Comment ça a commencé? En fait, on fantasmait avec Mathieu sur Dumas depuis très longtemps et on avait l'impression que ça serait impossible de le faire. Donc on avait notamment relu Les Trois Mousquetaires il y a quelques années, parce qu'on essayait d'imaginer quelque chose, même pour le théâtre, à ce moment-là. Et devant l'étendue de la tâche, on s'est dit que c'était trop lourd. Et je pense que c'est en décembre 2019, je ne vais pas dire de bêtises, Dimitri Rassam, qui est un producteur avec qui on travaille depuis longtemps et qui aime bien les idées un peu folles, est venu nous voir en nous disant « Vous n'avez pas envie d'écrire Les Trois Mousquetaires ?» Et donc, on est devenu un peu fou collectivement, et c'est comme ça qu'est née cette histoire qui a correspondu en plus au début du Covid. Donc tout a été, c'est vraiment le début d'une épopée en fait pour nous qui s'est construite avec nous reprenant le roman de Dumas pour essayer de sortir cette adaptation. L'idée que Martin Bourboulon soit le réalisateur dès le départ, et on a travaillé avec Dimitri, avec Pathé. Et c'est comme ça qu'on a remis les mains dans cette œuvre dingue.
Séance tenante, c'est dispo tous les mardis sur toutes les applis.
Qui n'a jamais été victime d'appels multiples concernant le compte professionnel de formation?
Et ce, parfois, plusieurs fois par jour. Alors plutôt que de s'agacer ou d'être vulgaire face à ces tentatives d'extorsion, faites comme Julien dans son podcast CPF Bonjour. Restez zen, improvisez, au moins vous allez rigoler.
Vous appelez à propos votre compte personnel de formation du CPF.
Ah, la CMG?
Pardon?
C'est pour la CMG?
Non, c'est le CPF, le compte personnel de formation.
Ah oui, c'est l'EDF, c'est pour l'électricité.
Oui, anciennement ça a été le DIF, mais là c'est le CPF.
Ah oui, parce que du coup, moi j'ai un problème, on m'a coupé l'électricité il y a 3 jours, et alors le soir je ne vois plus rien.
Pardon?
On m'a coupé l'électricité il y a 3 jours, et donc le soir je ne vois rien, il n'y a pas la lumière.
D'accord, et pour quelle raison monsieur?
Parce que j'avais pas payé la facture. Allô?
Mais là, monsieur, on vous appelle à propos de votre compte personnel de formation.
D'accord.
Est-ce que vous avez déjà bénéficié ou pas encore?
Est-ce que vous allez me couper ma formation, vous aussi?
Pardon?
Vous n'allez pas couper ma formation?
Quelle formation, monsieur?
CPF, bonjour, c'est très drôle et c'est dispo partout.
Merci Charline, Judith Duportail. On continue de parler de On peut plus rien dire dans la suite de l'émission, juste après un nouveau morceau de Jack White, c'est Shedding My Velvet. C'était Jack White, Shedding My Velvet, extrait de l'album Fear of the Dawn. Nous sommes de retour avec Judith Duportail pour parler de son podcast On peut plus rien dire, produit par Binge Audio.
Les thématiques des épisodes, Judith, vous sont-elles dictées par l'actu ou aussi par des préoccupations ou peut-être un prisme tout personnel ?
Tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, on a fait une heure d'entretien avec un spécialiste pour... partir de cette actualité, mais aussi essayer d'imaginer à quoi ça ressemblerait un monde sans conflit, qu'est-ce que ce serait une diplomatie qui serait inspirée du féminisme. Donc on part parfois de l'actu pour se poser des questions. Moi j'aime bien essayer d'aller le plus profond possible. Après, il y en a certaines qui sont comme le self-care est-il l'arnaque du siècle. Ça, c'est une sensibilité personnelle ou peut-être juste une overdose d'être sans cesse sujet, enfin de recevoir sans cesse des messages, de dire chaque épreuve est une opportunité, enfin toute douleur est une peut te permettre de grandir. Enfin, au bout d'un moment, parfois ça fait émerger des angles d'émission. C'est comme ça l'avantage immense du podcast, c'est de pouvoir naviguer entre des intuitions qu'on a ou des éclairs ou des interrogations, puis après parfois rebondir sur l'actualité. C'est cette liberté qui nous est offerte et qui nous est permise dans le podcast, avec laquelle on s'éclate, quoi.
Avec une liberté à la fois de ton, de format et une liberté éditoriale complète.
Complète, ouais. Complète. C'est, en tant que journaliste, je trouve que c'est vraiment le meilleur espace où exercer aujourd'hui. Enfin, sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, hélas. Mais ce qui est fou, c'est qu'avec le succès du podcast, on a l'impression que les rédacteurs en chef ont recompris que quand il y avait des récits inédits, quand il y avait des récits profonds, quand il y avait de l'engagement de la part du journaliste ou quand il y avait juste de l'approfondissement, et ben ça pouvait plaire et que tout d'un coup, ça leur a rappelé ça qu'en fait, il fallait de la qualité, de la profondeur et de la sincérité pour que ça plaise au public. Donc Dieu merci, on a eu cet espace pour pouvoir remontrer ça au rédacteur en chef.
C'est important à vos yeux, l'engagement du journaliste ? Vous ne croyez pas à la neutralité journalistique ?
Moi non, moi je pratique un journaliste très engagé, très subjectif, que j'assume, parce que j'estime que je dois quand même de dire d'où je parle, si je ne le faisais pas ce serait malhonnête. Je crois qu'on appelle neutralité la subjectivité des puissants, et que la neutralité journalistique, elle est un leurre, et je pense qu'il y a... C'est une des raisons parmi lesquelles il y a un tel désintérêt, une telle crise de confiance dans le journalisme aujourd'hui, c'est qu'on a fait croire à cette neutralité qui n'existait pas.
Qui a pu être pratiquée, enfin, en tous les cas, essayer d'être pratiquée.
Bien sûr,
le plus
après, par
possible.
Contre, on peut être subjectif, mais il faut rester honnête. Dans notre métier, il y a quand même, par exemple, il faut se baser sur des faits, il faut vérifier ses sources. C'est pas parce qu'on est subjectif qu'on raconte n'importe quoi. Voilà. Par contre, il faut faire cette différenciation. Mais je pense que oui, non, cette neutralité est un leurre.
On peut plus rien dire, ce sont aussi, on le disait, de grands entretiens. Parmi les récentes interviewées, on retrouve Lolita Peel, et Nora Malagré ou encore Camille Kouchner.
Je trouve aussi qu'il y a quelque chose, bon, peut-être je vais mal choisir mes mots, mais tant pis, je prends le risque de naïf dans la notion de consentement, parce que ça présuppose l'idée que notre volonté s'exprime toujours de façon tout à fait libre. Et que comme si parfois on consentait pas à des actes qui pouvaient être illégaux, ou qu'on consentait pas à des actes qui étaient contre notre intérêt, ou qu'on consentait pas contre notre gré presque, ou qu'on se résignait pas parfois à consentir. C'est toutes ces zones que je trouve qu'on passe très vite dessus avec la notion du consentement, comme s'il y avait un absolu du désir.
Exactement, mais je suis super d'accord avec vous. Et alors, pour faire un petit peu de droit, mais là, on parle... Donc, on a amené cette notion de consentement dans le droit pénal pour ce qui concerne ces infractions-là. Bon, à nouveau, c'est pas dans la loi. Et bon. Mais si on s'intéresse un peu au droit civil, le droit civil a une notion qui est différente. En tout cas, on se réfère à la volonté libre et éclairée du sujet de droit. Donc déjà, il y a cette notion de volonté libre et éclairée.
D'accord.
On ne se réfère pas uniquement à la volonté. Il faut qu'on vérifie qu'elle est libre et éclairée. Et on parle des vices du consentement en droit civil. Et donc, on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de dol, qu'il n'y a pas de violence. Donc déjà, c'est un consentement d'une certaine qualité.
Camille Kouchner, autrice de La Familia Grande, qu'est-ce que ce format long entretien vous permet de raconter de différent de celui du podcast ? À l'habituel, du débat.
Du débat.
Bah, là, c'est plutôt un moment où on, avec pour l'instant que des autrices quasiment, ouais. Ouais, c'est ça, où j'aime bien recevoir des autrices après un grand moment de promo ou plus tard, comme il y a eu, on a eu donc Camille Kouchner ou Lolita Pile. Bon, après c'est 20 ans après son livre, mais
voilà, mais c'est vrai, il y a un vrai temps de repos.
C'est
et
ça.
C'est quand même un luxe qu'on peut pas tous se permettre dans un flux d'actu. En
exactement.
Réalité, ouais.
Et j'aime bien aussi revenir avec elle sur comment s'est passé. Enfin là dans le cas de Camille Kouchner, donc c'était son livre La Familia Grande, ouais. On est revenu sur la réception de son livre, on est allé, puis après on est allé très loin dans le débat sur
absolument.
Les notions de famille, d'inceste, de consentement, de désir, de liberté, de féminité, enfin tous les thèmes qui moi me passionnent. Et moi je trouve que c'est des conversations qui sont extrêmement intéressantes, où j'essaye d'extraire toute l'intelligence et la sensibilité et la subtilité des personnes que j'ai en face de moi. Avec le privilège d'avoir une heure et quart, une heure et demie devant moi et de pas être dans le rush de l'actu, comme vous disiez, dans le flow de l'actualité. Et Nora Malagré, on est aussi revenu sur ces années TPMP, ces années donc avec Cyril Hanouna. Moi, à l'époque, je la voyais comme la sale gosse de la télé. Et un jour, j'ai lu son livre sur l'endométriose et j'ai été saisie, en fait, par la profondeur de cette femme et son intelligence. Et je me suis dit, mais en fait, l'image que j'en avais ou l'image qui m'en était renvoyée par les médias était totalement fausse. Et moi-même, je l'avais jugée beaucoup trop vite, comme la blondasse de chez Hanouna. Mm-hmm. Et donc, je voulais aussi parler de ça avec elle et de comment cette dichotomie entre sa personnalité et son image publique, elle l'avait vécue. Enfin, et voilà. Donc, c'est des conversations au long cours, peut-être plus profondes, plus intimes et que je trouve hyper intéressantes, personnellement.
Puisque vous parlez d'Enora Malagré, bah, écoutons un bout de cette interview sans filtre, notamment au moment d'aborder le sujet du physique à la télévision.
En fait, on n'est pas vraiment un... Moi, je me rends compte que j'étais là, c'était le rôle de la petite blonde, gueularde, sexy. Il fallait faire quand même bander un peu le chaland. C'est très particulier. Hein. Il y a une forme de... Je vais aller très très loin dans la métaphore, mais pour que ça soit clair, il y a une forme de proxénétisme là-dedans.
C'est cette liberté de ton qui vous plaît tellement dans le podcast.
Exactement. Exactement. C'est exactement ça. C'est qu'elle puisse venir raconter comment ça se passait pour elle à la télé, qu'elle explique que quand elle n'était pas assez décolletée ou pas assez en short, on la renvoyait derrière, se rhabiller, etc. Enfin, moi, je trouve ça... Faut le savoir, ça, faut qu'on le dise, quoi. Faut qu'on en parle.
Mais ce qui est très intéressant, en plus, dans ces formats longs, c'est que ce sont effectivement des femmes qu'on a beaucoup entendues à un certain moment. Et en fait, qu'on entend de manière très différente. Moi, par exemple, Camille Kouchner, je l'ai beaucoup vue en interview avec énormément d'intérêt. Et là, dans le format que vous lui accordez, ben, j'ai entendu des choses que je n'ai pas entendues dans les interviews précédentes. C'est ce que le temps long permet aussi. C'est une manière de les découvrir autrement.
Exactement. Et c'est aussi pour être tout à fait sincère, le temps que je passe aussi à préparer ces entretiens, parce que j'ai aussi le temps de pouvoir le faire, comme j'en fais pas un par jour, mais un par semaine. Exactement, le temps long permet peut-être de faire connaissance autrement et peut-être d'essayer d'avoir accès à la vraie personnalité de ces femmes.
Question qui m'intéresse à titre personnel. Avec ce podcast, vous souhaitez débattre et construire le monde que vous voulez habiter sans complaisance et sans passer de la pommade au fouque, comme dit encore une fois.
Au foucu.
J'ai compris le fouque, moi.
Non. Passer de la pommade au foucu, non, c'est encore une expression de mon grand-père.
Ah oui, mais alors il prononce fouque. C'est allez, faux cul, d'accord, très bien. Ok.
Bon. Du coup, elle est limpide de l'expression.
Est tout à fait clair. Ouais.
Une dernière petite chose, Judith, vous serez demain, samedi 4 juin, à We Love Green pour un enregistrement en live et en public de On peut plus rien dire. Et la thématique, ce sera climat foutu pour foutu, autant en profiter. Un semblant de réponse. réponse perso à cette question ou pas encore?
En fait, on s'interroge sur le fait que, ça, à notre petite échelle, ça peut sembler tellement immense, les efforts qu'il y a à accomplir pour essayer de sauver notre peau et notre planète, qu'il peut y avoir une espèce de tentation pour une espèce de nihilisme désespéré, en mode, bon, bah, tant pis, quoi, foutu pour foutu, à quoi ça sert, moi, de trier mes déchets quand les milliardaires construisent des fusées pour aller sur Mars? Et on peut on veut s'interroger, en tout cas, avec des philosophes et des expertes sur qu'est-ce qu'on peut faire de cette espèce d'énergie du désespoir et est-ce qu'on peut la brancher sur une autre, un autre canal pour en faire autre chose.
Et une émission de débat en live, ça veut dire une émission participative?
Hélas, non, là, on n'a pas le temps. Hélas, on n'aura pas le temps. Mais on en fait une le 14 juin au point éphémère « Faut-il sauver l'hétérosexualité ?» où là, on aura 45 minutes pour débattre avec le public, si vous êtes, vous êtes bienvenus.
On ne peut plus rien dire. C'est signé Judith Duportail et c'est chaque vendredi, bah, partout sur la planète podcast. Judith Duportail, je vous propose de rencontrer un super-héros dans la suite de Pop Up Podcast, juste après un morceau signé Sharon Jones and the Dap Kings, c'est Matter of Time. On écoutait Sharon Jones and the Dap Kings, Matter of Time. Et vous, vous écoutez Pop Up Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Oh, mais, oh, et oui, les feuilles s'envolent. Que voilà une mise en scène sobre pour signaler la présence, l'arrivée de Thomas Biassi, alias Cosmo Flash. Bonjour Cosmo.
Bonjour Antoine, bonjour Charline, bonjour.
Alors Cosmo, mon super pouvoir à vous, c'est quoi ?
Moi, c'est les podcasts.
Mon super pouvoir à vous.
Mon super pouvoir à moi, c'est d'anticiper l'avenir et je sais que vous allez nous parler de podcasts.
Exactement. Et cette semaine, je vais tenter de vous faire peur avec une nouvelle fiction de BBC Radio 4.
La BBC Radio 4, quoi.
Oui, voilà. Vous avez tout compris. L'Usus. Alors, ça s'appelle L'Usus. C'est une anomalie en latin. C'est donc un nouveau podcast de BBC Radio 4 qui s'aventure pour la première fois sur le terrain de l'horreur en audio. Ici, pas de monstres dégueux, de serial killer ou de fantôme, la série joue plutôt avec des démons intérieurs auxquels on peut s'identifier, la solitude, l'hypocondrie, le vieillissement ou même l'angoisse écologique. L'Usus s'inspire largement du format de Black Mirror qu'on ne présente plus. Chacun des 8 épisodes du podcast nous emmène dans une histoire indépendante des autres avec malgré tout un fil rouge très étrange dont je parlerai un peu plus tard.
Oui, parce que j'avais oublié, mais vous êtes teaserman, hein,
oui, c'est
l'homme
vrai.
Qui tease.
Malgré tout, je vais vous faire écouter un exemple. Le premier épisode est consacré à la FOMO, donc c'est Fear of Missing Out en anglais, soit la peur de manquer quelque chose tout le temps. C'est une peur qui est encore plus exacerbée aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux. Et donc on suit Noah, une jeune femme terrifiée à l'idée de rater des occasions, si bien qu'elle ne peut jamais vraiment apprécier ce qu'elle a choisi de faire. Et ici, elle se réveille très tôt dans la matinée et commence à regarder son téléphone.
You're right, Gingy. I'm not missing out on anything. Breathe it in. Maybe I'll just check my messages, just in case work sent that email. How does Clara stay in such good shape? She can't be eating all the desserts she posts. Did Darren get another promotion? How did Darren get a promotion? Oh, Kate and her fella just got engaged. Oh, that ring, though. Rose and Minnie are having another
Hillary
baby.
Completed her 10th marathon. Where does she find the time to train like that?
Voilà, et dans la même séquence, Noah parle avec son ami très populaire sur les réseaux sociaux et lui propose d'aller à une soirée le lendemain. Sauf que le même soir, elle doit aussi aller à l'anniversaire de sa mère et dans une tentative de désespoir, elle cherche sur Google « Est-il possible d'être à deux endroits en même temps ?» Et c'est à partir de là que le destin de notre protagoniste déraille complètement.
What's your name again?
Noah. It's Noah with Ash, or Renee.
Yeah, Noah already checked in.
But I'm Noah.
If you could just step to one side so I can see to these other guests.
You want another one?
Excuse me?
Cigarette?
I don't smoke.
I thought you were a social smoker.
I think you've got me confused with someone else.
Funny. I always remember her face.
Voilà, donc là, elle décide d'aller à la soirée de son amie, finalement, mais arrivée là-bas, elle semblerait qu'elle soit déjà rentrée dans la boîte de nuit. Encore plus étrange, un inconnu lui propose une cigarette, en ayant l'air de l'avoir déjà rencontrée un peu plus tôt. Il y a un petit côté quatrième dimension qui n'est pas pour me déplaire. Alors, ça peut sembler un peu idiot hein, d'être effrayé par un podcast, mais l'habillage, le design sonore sont vraiment troublants, très réussis. On a vraiment l'impression d'être immergé dans une sorte de thriller psychologique. Et c'est notamment le cas de la voix off du début, qui donne encore plus ce côté quatrième dimension, en promettant aux auditeurs qu'ils vont écouter un podcast relaxant, qu'ils sont entre de bonnes mains, tout ça avec un ton tout à fait dérangeant.
Hi, welcome to the Lucis podcast. It's time to take a deep breath and let go of the worries of the day. This podcast may contain content that some listeners find distressing or triggering. But don't worry, you're in safe hands. Release that tension in your shoulders. Relax the muscles in your face.
L'angoisse totale.
Bon, et à la fin, on ne sait pas exactement ce qui arrive à Noah. La conclusion est plutôt haletante, plutôt stressante même. Mais le podcast laisse notre imagination remplir le reste. Et on en ressort avec plus de questions que de réponses. Et tout ce que l'on sait, c'est qu'il existe une mystérieuse porte qui semble être la porte d'entrée des fantômes qui hantent les protagonistes de chaque épisode. Ce premier épisode, d'ailleurs, se termine avec une question. Est-ce que cette porte renferme quelque chose ou est-ce qu'elle nous garde enfermés?
Alors, est-ce qu'elle renferme quelque chose ou est-ce qu'elle nous garde enfermés?
Oui, alors c'est vrai, quand on répète encore plus la question, elle a l'air encore plus niaise. Malgré cela, les deux scénaristes, Rachel Zisser et Samantha Newton, ont vraiment fait un choix habile et original en décidant de nous faire peur avec des monstres qui sont en fait nos petites peurs du quotidien. Et en plus, la série ne nous laisse pas sur notre faim. En écoutant tous les épisodes d'une trentaine de minutes environ, chacun, on peut reconstituer le puzzle et comprendre enfin ce qui se cache derrière cette fameuse porte. Mais ça, je me garderai bien de vous le révéler.
Merci, Teaserman. Ça permet aussi de faire des progrès en anglais.
Ah, exactement.
Redites-moi BBC 4.
BBC Radio 4.
Ok, continuez à écouter. Merci, Cosmo Flash. Et à la semaine prochaine. Oh, mais le voilà qui s'envole déjà et qui est reparti. Je cogne mon micro. Judith Duportail, ce sera à votre tour de nous conseiller un podcast dans un petit instant, juste après un classique de chez les classiques, Aristide Development, People Every Day.
Take the brother out for being rude. Hey! And like I said before, I was mad by them. It took three or four cops to pull me off
they
of him.
Off
but
of
that's
him.
The story, y'all.
Arrested Development People Everyday, dernier morceau de ce nouveau numéro de Pop-Up Podcast. Judith Duportail, je le disais, c'est à vous de nous conseiller un podcast, le fameux podcast à conseiller à un ami, le podcast donc, un clin d'œil à Jean-Pierre Foucault et à son coup de fil à un ami. Jingle, vous l'avez, non? Non, moi non plus. Non. Et ce podcast, c'est Mort à la ligne de Lucie Ronfaux, réalisé par Quentin Bresson pour Programme B. On écoute le début de l'épisode 2, La mort est-elle instagrammable ?
Quand on perd quelqu'un de proche, on se pose vite la question de l'annonce. Quand le dire ? Comment ? Doit-on passer des coups de fil à tout le monde ? Acheter un encart dans le journal ? Parfois, par souci de facilité, on décide d'utiliser les réseaux sociaux. Parce que c'est pratique. Parce qu'on est sûr que tout le monde pourra le lire. Parce qu'on en a marre d'avoir la même discussion au téléphone, encore et encore.
Alors pourquoi ce podcast, Judith Duportail ?
J'aime bien les podcasts qui s'intéressent au tout ce que les réseaux sociaux changent dans notre vie, ouais. À tous les aspects de notre vie. Et là, en particulier, sur la question du deuil, je trouvais que c'était un thème qu'il fallait aborder, en fait, auquel on va tous être confrontés à un moment ou un autre. Et que là, c'était fait avec beaucoup de délicatesse. Encore, on en revient à la délicatesse. Et que, voilà, je trouvais que c'était un thème d'utilité publique abordé avec sensibilité.
Qu'est-ce que vous allez faire, vous, alors ?
Quand je serai morte ?
Non, quand vous serez morte, quand vous allez perdre un être cher, vous allez l'instagrammer ou pas ?
Est-ce qu'il faut l'annoncer sur Instagram? Je pense que Facebook, c'est un meilleur endroit pour annoncer la mort de quelqu'un.
Facebook est un meilleur endroit pour annoncer la mort de quelqu'un.
Parce que...
C'est étrange cette conversation. Ouais.
J'adore cette phrase.
Déjà, je pense que sur Facebook, on a plus tous ses proches, toute sa famille, etc. Enfin, on a un spectre plus large de proches familiaux. Ouais. Je pense que c'est pour ça. Parce que d'instinct, je me serais dit, il faut que ma famille soit au courant.
Oui, pour tenir les gens au courant.
Pour tenir les gens au courant. Okay. Oui, voilà, c'est ça. Pour annoncer un deuil. Ouais. Voilà.
Ouais. Décidément, il faut que je me mette sur Facebook. Bon. Mort à la ligne de Lucie Ronfaux. C'est un podcast de Binge Audio, conseillé par Judith Duportail, qui était notre invitée aujourd'hui. Merci, Judith.
Merci.
De nous avoir rendu visite. Je rappelle que votre podcast, On peut plus rien dire, est à retrouver chaque vendredi sur toutes les plateformes. Merci, Charline.
Merci à vous.
Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Mathias Alléon, qui était à la technique aujourd'hui.